Le Théâtre du CEP est une institution théâtrale incontournable à Montréal, il faut le dire, et elle vient de lancer sa programmation 26-27. Il faut le dire, hein, je pense que c'est la 54e saison, c'est quand même quelque chose. Alors, une saison qui est placée sous le signe d'un théâtre solidaire et rassembleur dans un monde fragmenté, on peut le dire. Pour en parler, je reçois le co-directeur artistique de la compagnie, metteur en scène et comédien aussi, Jean-Simon Traversy. Salut Jean-Simon.
Ben oui, merci pour l'invitation. Comédien, ça fait longtemps, là, par exemple.
Ben oui, ça fait un petit bout, là.
Oh, ça fait trop longtemps, là. J'enlèverai ça de mon CV, là. Plus metteur en scène, mettons.
Tu vas pas retourner sur scène?
Ah, mais c'est comme faire du BC, quand je dis souvent. Je pense que je serais capable, mais c'est le stress d'embarquer dessus, de savoir si je suis encore capable de faire ça.
Bon, OK, je l'enlève pour le moment.
Okay, merci,
on le met en parenthèse. Alors, 54e saison, ça, qui se veut un pari sur le rassemblement. Je pense que c'est important de souligner face à l'actualité qui met notre solidarité drôlement à l'épreuve. Alors, comment les textes choisis vont créer un peu ou vont représenter cette vision?
C'est une bonne question. T'sais, à chaque année, on essaie vraiment de... Le théâtre, c'est du rassemblement. Quand on va s'asseoir dans une salle de théâtre, c'est ça qui est beau. On vient de finir Zéro de Manie Soleil Manlou là, en fin de semaine, hier après-midi.
C'est superbe à passer.
Ah, c'est tellement une bonne pièce. C'est tellement intéressant. Puis il est tellement drôle, Manie. Il est tellement habile sur scène. Puis il nous fait passer d'un état à l'autre. Mais là, je voulais m'en aller. C'est que de voir les gens dans la salle, c'est ça que j'ai trouvé beau aussi. On vient de finir Frère aussi juste avant. Oui. En fait, moi, ce que j'aime comme metteur en scène, c'est la relation entre la salle et la scène. Puis j'aime regarder en fait les gens écouter le spectacle, j'aime regarder les gens l'écouter ensemble. Donc le théâtre, c'est un effet de rassemblement. Donc chez Duceppe, on veut raconter des histoires qui vont faire que les gens vont avoir envie de se rassembler.
Mais je vais vraiment dire, Zéro, c'était, je vais prendre un mot que les jeunes utilisent, c'est challenge. Ça nous mettait au défi pas mal.
Ah oui, t'as senti ça?
C'est pas un texte, c'est un texte qui est très drôle, livré de façon très drôle, mais où il y avait des choses qui frappaient, hein, les amalgames et ça. Je veux pas trop qu'on parle mais ça fait partie un peu, je pense, de ce que vous présentez chez Duceppe.
On essaie, tu sais, le théâtre de tout temps a été un endroit où on peut prendre position, on peut justement essayer de débattre, d'amener une opinion sur la scène, puis que les gens soient pas d'accord, mais donc d'avoir des méchants encore plus méchants, c'est ce qu'on veut faire. Donc Manie, en fait, lui, il a son opinion, il a son histoire qu'il nous raconte, puis en même temps avec son regard, ben il nous challenge comme Québécois, mettons, dit de souche là, tu sais, il nous challenge parce que lui, il fait, moi, c'est de là que je viens, puis moi, je trouve ça beau en fait d'avoir ce genre d'histoire là. Maman, c'est une autre histoire aussi, c'est à travers une famille, mais on peut tous se reconnaître dans Frère ou dans l'écriture de Nathalie Doumard, tu sais. On peut reconnaître des oncles, des cousins dans la manière de se parler en famille.
Mais particulièrement dans le monde dans lequel on vit présentement.
Ouais. Vraiment. Dans le monde dans lequel on vit, en fait, c'est ça, juste de se rassembler, d'être ensemble, d'avoir un peu d'espoir. Un des plus beaux commentaires qu'on a reçus à la fin de Frère de Nathalie Doumard, c'est que les gens ils disaient, je ressortais avec de l'espoir qu'on peut changer, qu'on peut justement... parce qu'à la fin, ça se terminait avec justement un des frères qui revenait auprès du père, puis qui s'excusait. Puis dans la vie, on peut s'excuser, on peut dire qu'on est désolé.
C'est le fun, hein, de pouvoir s'excuser, se pardonner. Puis moi, il y a une phrase que je vais me rappeler pour tout le temps.
Ouais.
C'est que le père qui dit, je veux pas que mes fils grandissent pour qu'ils deviennent des hommes dont les femmes ont peur de se séparer ou qui n'ont pas peur de se séparer.
En plein ça. C'est tellement une phrase puissante, justement. Puis quand on laisse un silence après ça, justement, le moment de communion là, dans la salle, de laisser ce silence-là résonner.
Ah, ça a vargé, oui. Ben, allons-y avec la prochaine saison.
Oui,
24 pauses portraits. C'est quand même une reprise mise en scène par la formidable Edith Patenaud. J'avoue que j'ai un petit faible pour son travail. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de reprendre le show?
Bien, chez Duceppe, tu sais, on a souvent été près de la dramaturgie anglo-saxonne, tu sais, de ce qui s'écrit donc en anglais, qu'on traduisait en québécois. Mais 24 pauses, on est aussi près, en fait, des néoclassiques. Souvent, on dit, on aime les classiques, tu sais, on va faire un tramway nommé les autres, Tennessee Williams, mais on aime ça aussi, des fois, amener, en fait, ça va être la première fois que ça va être remonté 24 pauses à Montréal, donc après la diffusion qu'il y a eu au début des années 2000. Donc, on trouve ça, on appelle ça des néoclassiques. Comment une histoire va justement de tomber dans le répertoire, ben c'est en la remontant 15-20 ans plus tard. Et donc, on l'a relu avec David, puis ça mettait encore le doigt sur quelque chose dans cette relation-là. C'est une famille qui donne rendez-vous pour le 40e anniversaire du fils. On est en banlieue de Québec. On se dit plein d'affaires, mais on se dit rien en même temps. C'est à la fois très drôle, très touchant. C'est des personnages qui sont très extravertis, mais qui cachent un drame. Puis le drame commence à prendre... Fait que c'est toute l'écriture de Serge Boucher qu'on adore. Puis tu sais, le rideau vert va monter aussi un texte de Serge Boucher en fin de saison aussi, un néoclassique, une pièce
Motel Hélène.
Ouais, qu'on ramène quelques vingtaines d'années plus tard. Donc, c'est une brochette pour nous d'acteurs incroyables. Edith Patenaud, la directrice artistique d'Espace Go, c'est une metteuse en scène incroyable. Donc, on était contente de travailler avec elle. Puis, Guylaine Tremblay, qui reprend après le rôle de la fille, là, reprend le rôle de la mère, qui était défendue par Louison Dany à la création. Martin Drainville, Émilie Bibeault, Marc Beaupré, pour vrai, on a eu une première lecture. Puis, ça fait vraiment un plaisir. Donc, on veut vraiment commencer la saison avec ça après l'été.
Tu as mentionné Un tramway nommé Désir, c'est quand même pas nouveau, on le voit souvent, ce show-là.
Oui.
Et ce spectacle-là, c'est toi qui vas le monter.
Avec Virginie Brunel.
Oui, et là, vous allez vraiment modifier des choses.
Bien, on essaye, mais il ne faut pas le dire trop fort, parce que, tu sais, dans le sens que les ayants droit, on respecte le texte, là, vraiment, de Tennessee Williams, c'est tellement une belle langue. Mais on avait travaillé ensemble, Virginie et moi, sur Royal, l'adaptation du roman de Jean-Philippe Barrière-Guerrard. Puis, je dis souvent que ça avait été agréable et challengeant. Ça avait pris du temps à trouver où nos deux univers se rencontrent, celui de la danse contemporaine de Virginie, celui d'un théâtre plus réaliste qui est mon univers. Mais on a eu beaucoup de plaisir à trouver la zone où nos deux univers se rencontraient pour raconter une histoire. Et là, on avait envie de récidiver. Tiens, Tramway nommé Désir, c'est une pièce pour interprète. T'sais. C'est ça que moi, j'avais envie de monter. Après, on fait beaucoup de créations où on doute, est-ce que c'est la bonne manière, est-ce trop long, est-ce qu'on coupe là-dedans? Là, la structure, elle marche. Les personnages sont clairs, on les connaît. Puis là, ça devient vraiment de la direction de l'acteur puis de la subtilité. Comment on peut aller ailleurs? Comment on peut... aller au-delà du cliché de Stanley qui va crier « Stella » à genoux, genre dans la pluie, de l'avoir en Marcel en camisole. Donc, vraiment de travailler ça. Puis la danse va nous aider. Donc, sur scène, quatre interprètes incroyables. Gabriel Lemire qui va jouer Stanley, Chanel Mings qui va jouer Stella. Deux danseurs aussi. Donc, une de la compagnie de Virginie Brunel pour nous permettre de doubler le personnage de Blanche un petit peu, qui est prise dans une bulle. Et une fanfare aussi qu'on fait parce que c'est la musique, c'est le sud des États-Unis. Dans les didascalies de Tennessee Williams, c'est toujours écrit il y a un piano au coin de la rue, on entend de la musique, les cuivres, donc la fanfare, les percussions, les cuivres, on en a envie de ça. Tous les ingrédients sont là, puis dans les prochaines semaines, on a des petits laboratoires pour voir comment ça se mélange bien.
J'ai hâte d'entendre la musique qui va peut-être nous rappeler aussi les rues de Nouvelle-Orléans.
Oui, de la Nouvelle-Orléans, on espère.
Prima facie à première vue, vraiment, voici une pièce là, qui touche une actualité très, très importante. On peut le dire, l'agression sexuelle, système juridique. Alors, pourquoi le Duceppe s'attaque à des enjeux? C'est quand même brûlant d'actualité. Là.
Mais c'est surtout une très, très bonne histoire, cette pièce. Quand on l'a lu, là, c'est tellement bien écrit. On avait travaillé une pièce qui s'appelait Consentement à notre première saison. Ça fait déjà 9 ans qu'on est en poste. Donc, il y avait Consentement, une pièce qui parlait un peu de ça. Et aussi dans le système juridique des amis. Puis, tout à coup, ça s'immisçait dans leur cercle d'amis. Là, c'est vraiment un solo spectaculaire, en fait, pour une actrice fin vingtaine, début trentaine, Valérie Telos, qui va le défendre ici. Louis-Carl Tremblay aussi, qui vient d'être nommé directeur artistique là, du théâtre Denis Petit, qui va faire la mise en scène. Puis, toujours le geste artistique, donc là, il va avoir aussi une présence de musique, mais on ne peut pas en dire trop. Là. On reviendra ou t'invitera Louis-Carl ou mon collègue David Lorrain qui va traduire la pièce à venir en parler. Mais c'est tellement une bonne histoire. On a quelqu'un qui nous parle, qui nous raconte début vingtaine, à quel point elle est bonne dans ce qu'elle fait, elle aime ce qu'elle fait. Et elle prend un plaisir aussi à mettre les gens face à leurs contradictions. Mais à un moment donné, ça va, un incident va arriver dans sa vie personnelle. Justement, elle va avoir une rencontre avec un collègue, une situation justement d'harcèlement, de violence sexuelle, et elle va devoir prendre place de l'autre côté à la barre des témoins cette fois-là pour raconter son histoire, mais en connaissant tous les mécanismes parce qu'elle-même étant très bonne pour faire ça. Fait que bref, c'est vraiment une très, très bonne histoire. C'est des courtes scènes très dynamiques menées par une actrice très forte.
La saison 26-27 accorde une grande place aussi à des œuvres de mémoire collective ou d'identité. On pense à Le fantôme dans la machine de Fanny Britt et Nous dans les plaines immenses d'Olivier Kemed. Je pense comme il faut.
Mais oui.
Parlons de ces propositions.
Ah, bien, c'est deux personnes qui sont deux dramaturges sont en résidence chez Duceppe. À chaque année, on a une personne. Donc, Fanny, ça fait vraiment longtemps qu'elle est en résidence, puis elle a voulu écrire cette pièce-là. Mais elle s'appelle Le fantôme de la machine parce qu'elle veut parler d'un sujet très personnel. Elle a perdu son frère dans un incendie alors qu'elle était très jeune, il y a une vingtaine d'années. Et elle a toujours voulu parler de ce sujet-là, mais elle ne savait pas comment. Donc, elle a commencé à vouloir écrire, mais c'est comme s'il y avait un fantôme dans son ordinateur parce qu'à un moment donné, on a appris à la radio qu'elle avait perdu 60 pages de sa première version de texte qui était disparue de son ordinateur. Donc, elle l'a réécrit de mémoire. Elle parle justement de mémoire. Elle convoque aussi, un peu à la manière d'un Ouija sur scène, si vous aimez. Elle convoque trois frères différents, trois possibilités. Donc, le frère à l'âge où il est parti, début vingtaine, qui est défendu par Christophe Levac. Le frère idéalisé, Fanny est rousse. Son nom de famille, c'est Britt. Elle a des racines irlandaises. Mais un petit test, Ancestry. Je ne sais pas si tu as déjà fait des tests de généalogie.
Jamais, mais je connais ça,
Mais on prouvait que finalement, elle n'était pas si irlandaise que ça, puis elle est peut-être plus française que irlandaise ou britannique. Donc, elle parle un peu de ça, mais ce frère idéalisé-là serait directeur technique dans un théâtre en Irlande. Et finalement, le frère raté joué par Patrice Dubois, qui lui est juste un frère qui a pogné une mauvaise année. Donc, c'est Anne-Elisabeth Bossé qui joue un peu Fanny, qui convoque ces trois frères-là, qui reparlent. Donc, c'est comment de parler à ces fantômes, c'est comment de parler de sa mémoire, puis de s'identifier à qui on s'identifie quand on a perdu un frère très jeune. Puis, Olivier Kemed, il avait présenté chez nous, moi, dans Les ruines rouges du siècle, l'histoire de Sacha Samar, les 20 premières années en URSS, sa relation avec son père. Mais là, c'est le le tome 2, si on veut. Donc, c'est à partir du moment où il arrive ici. Une histoire d'immigration, quand tu arrives ici, puis tu parles juste ukrainien, puis que tu es acteur, comment tu travailles? Donc, c'est Wajdi Mouawad, le premier, pour la petite histoire, qui a donné un contrat dans 6 personnages en quête d'auteur aux 4 sous, et il avait appris sa seule réplique phonétiquement, qu'il disait de manière très maladroite, mais qu'il répétait sans cesse dans la pièce. Depuis ce temps-là, Sacha est devenu un acteur très important dans le milieu théâtral à Montréal, mais il raconte vraiment justement sa relation avec son propre fils quand les événements ont commencé en Ukraine au début des années 2010, la révolution, puis après ça, l'invasion russe. Mais son fils a eu envie d'aller se battre pour ce pays-là, qu'il n'a pas connu, mais qui savait que c'était le pays de ses parents. Donc, ça a confronté Sacha qui quitte un pays, mais son fils veut aller se battre là-bas pour l'Ukraine. Donc, ça va être bien intéressant. Puis, Olivier Kemed, c'est un très, très bon auteur, metteur en scène aussi. C'est des vignettes, on raconte, puis... L'équipe autour de lui, si tu me permets, là, l'équipe autour de lui, c'est toutes des gens qui ont accueilli Sacha alors qu'il est arrivé ici à la fin des années 90. Marie-Thérèse Fortin, qui était alors directrice artistique du Théâtre d'aujourd'hui, qui était la première à programmer Moi dans les ruines rouges du siècle. Éric Bernier, avec qui il a joué Éric dans justement le 6 personnages en quête d'auteur au 4 sous. Donc, il est comme bien entouré. Puis un peu comme dans Moi dans les ruines, c'est des personnages qui vont jouer plein, des acteurs qui vont jouer plein de personnages autour avec un Sacha narrateur.
Une belle saison. Il y a quand même deux choses que j'aimerais qu'on modifie. Il y a deux spectacles, Micheline et Baleine, dans une Formule 5 à 7. Ça, c'est quoi les Formules 5 à 7?
Bien, nous, j'adore ça. Dès qu'on est arrivé en poste avec David, on voulait installer les 5 à 7 qu'on avait développés à la Licorne sous la direction artistique de Denis Bernard. C'est à 5h30. Après le travail, venez. C'est une pièce de moins d'une heure. Donc, vous êtes chez vous, vous êtes sorti du théâtre à 6h30. Pour 32-33$ maintenant, on m'a dit, vous avez aussi quelque chose à consommer, une consommation, bière ou non alcoolisée, une petite grignotine, quelque chose à grignoter, puis une pièce dans la coulisse du Sepsis qu'ils font. On crée un petit théâtre de 80 places. Oui. On est très proche de la salle. Bref, les 5 à 7, on a deux beaux, là, Baleine puis Micheline. Venez voir ça.
Rapidement, on sait que Jeannette va revenir. C'est les dernières représentations?
Oui, on part en tournée. Là. C'est un peu avec Primeur. Là, on va partir en tournée à l'automne 2027. Mais oui, c'est les dernières représentations là, en décembre 26.
Puis moi, j'ai une autre primaire à te demander.
Oui, quoi?
Corps fantôme, ça va revenir? J'ai entendu dire que ça revenait.
Ça va revenir.
Bon, on a la primaire ici.
Oui.
Ça vient du patron. Ça revient quand? As-tu une idée?
Mais ça va être dans la saison 27-20, parce qu'on prépare une petite tournée en ce moment. Il y a Ottawa aussi qui est intéressé, Québec avec le Carrefour. Excellent. Et on l'amènera à Montréal. Donc, très bientôt, suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Jean-Simon, merci beaucoup d'avoir révélé certaines petites choses ici. Merci à ce micro. Jean-Simon Traversier occupe le poste de co-direction artistique du Théâtre du CEP aux côtés de David Lorrain depuis 2017. Ça va faire 10 ans l'an prochain.
Merci
beaucoup d'avoir été avec nous.
Bonne journée.